nous recevons notre second invité, à savoir Olivier Vincent, peintre plasticien, qui expose à partir d'aujourd'hui dans le local de la radio Canal Sud, une exposition qui s'appelle « Fragilité ». Voilà, il nous dira pourquoi. Et je ne sais pas si c'est par... se distinguer, ou par caprice, ou par commodité. L'exposition est visible à partir d'aujourd'hui, mais le vernissage sera jeudi 8, à partir de 18h30, comme tous les autres vernissages, et dont l'exposition est présente à partir d'aujourd'hui, de décembre jusqu'au 2 janvier. Et il y a donc, Olivier est au micro pour parler de ses tableaux, de l'exposition, mais aussi d'un livre, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « Le cri du hibou au milieu du désert », entre parenthèses, « Mémoire d'un confiné ». Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
D'accord.
Très bien.
Nous commencerons par la peinture, peut-être.
Oui, hein, voilà. Bien sûr.
Donc, vous pouvez nous dire votre parcours. Vous avez fait les beaux-arts, la peinture. Vous étiez dans un milieu artistique.
Parcours un petit peu atypique.
Vous faisiez autre chose, c'est ça ?
Parce que j'ai commencé par des études qui n'avaient rien à voir avec l'art.
C'est-à-dire,
j'ai fait des études de philosophie, puis des études de droit. Et puis, au bout de quelques années, quand même, je me suis rendu compte que ce n'était pas... Voilà, je m'ennuyais un petit peu.
D'accord.
Que c'était quand même pas mon truc, comme on dit.
Vous y retrouviez pas.
Voilà, absolument. Je ne m'y retrouvais pas du tout. Enfin, non, pas du tout.
Mais vous avez exercé en tant que prof de philo, oui.
Non, j'ai exercé surtout en tant que juriste.
D'accord.
Surtout en tant que juriste pendant une douzaine d'années.
Ah oui.
Oui.
Ah
et oui, puis, jusqu'au jour où je suis parti... J'ai démissionné et j'ai dit, bon, maintenant, je vais faire ce que j'aime.
Et la peinture, c'est quelque chose qui vous parlait depuis que vous étiez enfant ?
Alors, la peinture, c'est venu jeune. D'abord, c'est venu par le dessin, pour commencer, parce que je dessinais énormément, y compris pendant les cours.
Oui,
c'était ma manière à moi de me concentrer pour mieux intégrer ce qui était dit.
Vous dessiniez les professeurs ?
Donc, j'ai décidé ce qui me passait par la tête. D'accord. Ça pouvait être aussi bien les professeurs que les élèves ou d'autres choses.
Enfin, okay.
Voilà, mais c'était ma manière à moi de me concentrer sur ce qui était dit. Donc, je ne prenais pas beaucoup de notes, mais
vous y étiez dessin.
J'étais vraiment dans ce que je faisais. Donc, je faisais beaucoup de dessins et je suis venu à la peinture dans les années 80 à peu près. Un petit peu par hasard, c'est-à-dire qu'un jour on m'a offert un coffret de peinture et je me suis mis à peindre.
Peinture à l'huile
Peinture à l'huile.
Ouais. Les gens qui vous l'ont offert savaient que la peinture vous intéressait.
Oui, oui.
Vous aviez l'habitude d'aller visiter des expositions.
Voilà, je visitais beaucoup les expositions, puis comme je vous l'ai dit, je dessinais énormément. C'était un parcours un petit peu bizarre parce que en fait au départ tout petit j'écrivais énormément mais je crois si mes souvenirs ne me trompent pas que j'ai commencé par écrire énormément, j'écrivais beaucoup de poèmes dès que j'ai appris à écrire en fait.
Ah oui, d'accord.
J'écrivais des poèmes sans arrêt, j'écrivais mes pensées, mes réflexions, bon les pensées que l'on a à 7 ans, 6, 7 ans, 8
ans. Vous écriviez à l'encre à quoi ?
Alors j'écrivais à la main.
Oui, certes, je me doute.
Et alors au stylo encre, comme ça se faisait à mon époque.
Oui, oui.
Avec les plumes sergent major.
Oui, alors c'était même pas le stylo encre.
Non, c'était la plume.
Le plumier, mais la plume.
Avec la plume. Ouais.
Qu'il fallait changer de temps en temps.
Voilà. Et okay. après, bon, j'ai continué au stylo, bien sûr, parce que c'était quand même un petit peu plus pratique. Uh-huh. Mais j'ai toujours écrit. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à tout dire. Par les mots.
Ouais. Par le tracé des mots.
Le tracé des mots, j'ai élargi le champ et je suis passé très rapidement au dessin. Mm-hmm. Et en fait, je faisais les deux. C'est-à-dire que je passais de l'un à l'autre. Et
vous dessinez avec quoi ? Au crayon ?
Alors, au crayon, au stylo, tout ce qui me tombait sous la main, qui pouvait graver quelque chose.
D'accord.
Quoi. Okay. Voilà, tout était bon.
Uh-huh. La craie aussi ?
La craie, non, parce que c'était sur des feuilles. Sur des feuilles, donc pas à la craie. Et puis, je vous dis, dans les années 80, on m'a offert ce coffret. Uh-huh. Et je me suis mis à peindre avec frénésie. Mm-hmm. Ce qui ne m'a pas fait oublier l'écriture. Mm-hmm. Et puis voilà. Et puis, mais au départ, bien
que
sûr.
Que peigniez-vous des paysages, des
alors,
portraits.
C'était des choses très figuratives.
D'accord.
C'était des choses très figuratives. C'était des portraits, des paysages.
Oui, c'est plus...
Un peu plus tard, mais beaucoup plus tard, je suis passé au nu.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, j'ai peint des nus, des choses comme ça. Mais pendant que je travaillais, donc. J'ai suivi des cours à l'école des Beaux-Arts.
Oui, puisqu'il y avait des cours qui étaient proposés aux gens
voilà.
En dehors du cursus
universitaire.
Voilà. Enfin, voilà.
Oui. Donc, grâce à un ami qui était prof de design à l'école des Beaux-Arts, j'ai pu intégrer
ici à Toulouse.
À Toulouse, oui. Qui doit maintenant être à la retraite. J'ai pu intégrer les cours du soir.
Oui.
Alors je prenais.
Que
je
beaucoup
sais pas,
de gens ont
je
pratiqué.
Je prenais 4 heures. Ouais. Non, pas 4 heures, 8 heures. 4 fois 2 heures de cours,
uh-huh.
De cours du soir. Uh-huh. Alors c'était des modèles vivants, c'était uh-huh. des choses comme ça. Et là, techniquement, j'ai énormément appris, bien sûr. Parce
je me
que
doute, oui. Il faut, aux Beaux-Arts,
ouais. Il faut apprendre.
Oui.
Première chose avant de faire quoi que ce soit, c'est d'apprendre. Et voilà, et puis je me suis lancé pendant des années dans la peinture figurative.
Ouais. Toujours à l'huile ?
Toujours à l'huile,
d'accord.
Jusqu'en 1999,
uh-huh.
où je me suis complètement arrêté de peindre, pas d'écrire, mais de peindre.
D'accord.
Et
pourquoi ? Si
c'est parce qu'il me semblait, non, il me semblait tout simplement avoir fait le tour.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire que je ne voyais plus quoi peindre. Voilà, donc je me suis arrêté. Et puis quelques années plus tard, en revenant d'un voyage à l'étranger, mais sans même que je comprenne encore aujourd'hui pourquoi, je me suis remis à peindre avec la même
frénésie.
Passion, la même frénésie. Mais du jour au lendemain, je suis rentré de voyage et le lendemain, j'allais dans un marché, chez un marchand. M'acheter
des
couleurs, des toiles, des pinceaux, des couteaux, etc.
Tout le matériel.
Et là, j'ai fait un tableau, deux tableaux, 5, 10, 25, et tout d'un coup, ça a repris.
De quel pays rentriez-vous ?
Je rentrais des États-Unis.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre...
Alors,
est-ce que étaient-ce les paysages, les gens que vous avez croisés ? Enfin, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Une ambiance.
Il y a une sorte de... Peut-être, je ne sais pas. Je ne l'explique pas. Hein, toujours uh-huh. aujourd'hui, je ne l'explique pas. Une espèce de catharsis qui s'est produit en moi et qui a fait que... Voilà. Et là, en revanche, je me suis mis à peindre tout à fait autrement.
Uh-huh.
Et je suis parti... C'est-à-dire, je suis vraiment sorti du cadre, uh-huh. si on peut dire. Et je suis parti vers des choses plus, je dirais pas abstraites, mais vers des abstractions.
Oui.
C'est pas vraiment de la peinture abstraite,
oui,
c'est
oui.
vraiment plutôt des abstractions.
Mmh.
Et voilà, en gros, le
chemin. Mais le déclic, vous le... C'est ce voyage ?
Le déclic, ça a été le voyage, mais...
Est-ce qu'aux États-Unis, vous avez beaucoup
alors,
arpenté les salles d'exposition ?
J'ai arpenté les salles d'exposition,
bien les
évidemment.
Musées et tout.
Les
et tout.
Musées, bien évidemment. Mais avec un regard vraiment de visiteur,
oui.
d'amateur d'art.
Uh-huh.
Pas plus.
Uh-huh.
Et c'est vraiment en revenant que j'ai eu cette espèce
d'illumination.
Oui, oui, on peut appeler ça comme ça.
D'accord.
Donc ça a été très, très intéressant et très nouveau en même temps, parce que j'abordais les choses d'une manière très, très différente.
Uh-huh.
Très, très différente. Je vous dis, sortir du cadre et vraiment aller peindre non pas ce que je voyais ou ce que j'avais devant moi,
mais ce que vous imaginez.
Ce que j'imaginais beaucoup plus.
Ouais.
Ce que j'imaginais, ce que je ressentais. Voilà, je me suis mis à peindre vraiment des choses plus fondamentales, on va dire.
Donc, plus de liberté.
Beaucoup plus de liberté.
En fait, peut-être vous avez eu besoin de ce cheminement où mm-hmm. vous faisiez du figuratif.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Après d'avoir fait le
ouais.
tour, justement,
oui.
ça vous permettait de
oui.
franchir
oui.
un échelon.
Oui, et puis par le figuratif.
Un autre échelon.
Par le figuratif, j'ai appris énormément de techniques.
Oui, forcément.
Donc ça m'a... Et ça continue d'ailleurs ouais. de m'aider au quotidien.
Oui, bah oui.
C'est-à-dire que je m'appuie quand même énormément mm. là-dessus. Mais avec un autre regard, on va dire,
mmh.
Et puis une autre écriture, voilà.
Une autre écriture dans ce que vous voulez dire, vous.
Dans ce que je veux dire, dans
oui.
ce que je veux dire, une autre écriture.
Oui, vous intéressez à d'autres thématiques.
Voilà,
d'accord.
Voilà. Ça a ouvert les thématiques, ça a
oui.
ouvert le champ d'expression, ça a ouvert la forme
ouais.
de l'expression,
mmh.
mais ça, oui, ça a ouvert aussi à d'autres thématiques. Absolument.
D'accord. Ok. Je vous propose peut-être que nous fassions une première pause musicale, c'est le numéro 6, et donc c'est Diana Krall, puisque je vous ai demandé qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour accompagner l'interview, donc nous avons suivi vos goûts à la lettre.
Merci.
Vraiment des choses.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true, shoulda, shoulda. In other words, I love you.
Dire deux mots sur ce que nous venons d'écouter, puisque vous me l'aviez suggéré pour accompagner l'interview.
Alors, moi, je vous ai suggéré Diana Krall, parmi d'autres.
Oui, mais parce que j'écoute, il fallait faire un choix, puisque je vous en ai dit pas plus de trois morceaux.
J'écoute énormément de musique, en général, de manière générale.
Quand vous peignez aussi ?
Quand je peins, alors quand je peins, c'est un peu particulier. Quand je peins, j'écoute de la musique, mais pour commencer.
Ah oui.
À peindre.
Pour vous donner l'élan.
Pour me donner l'élan. Okay. Alors, en fonction de l'humeur, des états d'âme, de la forme.
De même chose.
J'écoute des choses très très différentes. Ça peut, c'est-à-dire que j'écoute aussi bien du jazz que de la musique classique. Mmh. C'est souvent de la musique classique. Mmh. Mais ça peut être aussi du rock, ça peut être aussi. Enfin, j'ai pas vraiment de. Ah si, c'est ce que je préfère, j'aime beaucoup le classique, j'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup le rock aussi.
Donc, oui, j'ai cru comprendre.
Voilà, non, c'est important. Et c'est ce qui me donne
l'impulsion.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état dans lequel je suis, Dès que je commence à travailler, je mets un peu de musique et ça me... et puis le disque s'arrête et,
oui,
et moi je continue.
Et vous êtes à votre
voilà,
peinture.
Mais j'ai oublié la musique
depuis
très longtemps.
Oui,
mais j'ai oublié la musique.
Oui, oui. Mais c'est ce qui donne le là.
Voilà, c'est ce qui me donne le là, c'est le cas de dire.
D'accord. Ok, d'accord. Donc, nous en étions restés au fait que vous aviez, votre peinture avait évolué, donc c'était une plus grande liberté, une plus grande richesse aussi, le fait de vous intéresser à des choses qui étaient pour vous plus importantes, et donc surtout cette liberté, vraiment,
absolument.
Sans liberté au sens premier du terme, au sens total du terme. Est-ce que vous utilisez toujours la peinture à l'huile ou est-ce que vous avez aussi, comment dire, essayé d'autres matériaux
pour non, alors justement, quand j'ai changé de. Quand j'ai repris la peinture et que je suis parti vers l'abstraction, j'ai abandonné l'huile, j'ai abandonné complètement l'huile et je suis passé à la peinture acrylique.
D'accord.
Qui correspondait beaucoup plus et beaucoup mieux
à ce que
je voulais faire et à ce que je faisais. Et mais ça aussi, c'est quelque chose qui évolue en permanence. C'est-à-dire que j'utilise toujours la peinture acrylique, mais il m'arrive de travailler, de rajouter quelques petites touches d'huile, ou même de faire des tableaux à base de peinture et d'encre de Chine confondus.
Ah ouais, ça c'est encore une autre histoire.
Là c'est encore une autre histoire.
Une autre démarche.
Après je fais beaucoup de pas mal quelques non je fais pas mal de techniques mixtes aussi où j'utilise des matériaux pauvres qu'on pourrait qualifier de pauvres,
c'est-à-dire
du carton, des cartons, des tissus, des tout ce qui me tombe sous la main, un petit peu, et dont je me sers comme support sous la peinture. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais forcément très très apparents,
mais
ils existent, ils sont là.
Ce sont les bases.
Et ils donnent une autre texture,
bien sûr.
Ils donnent une autre texture au tableau.
Au tableau, oui.
Voilà, donc c'est très très important. Mais principalement, globalement, je peins maintenant à l'acrylique.
Oui. Et ça vous donne plus de liberté ?
Oui, c'est-à-dire que ça oblige à avoir un travail peut-être plus rapide.
Ouais.
Donc,
oui.
Donc, beaucoup. Alors, c'est à la fois beaucoup plus spontané et en même temps beaucoup plus réfléchi. C'est-à-dire que ça donne. Ça, il faut, avant de commencer de rentrer dans le geste, on va dire, il faut. Enfin, en tout cas, quand on commence un tableau, il faut savoir à peu près vers quoi on va, même si on ne sait jamais vers quoi on va, on ne le sait jamais. Je commence et après, le reste suit, quoi. Le reste suit.
Et justement, vos sources d'inspiration, c'est en fonction du moment, de l'humeur ?
Alors, les sources d'inspiration, c'est des sujets qui...
Des rencontres ?
Ça peut être des sujets qui
des voyages ?
Des sujets qui me préoccupent, tout simplement, des sujets qui
des
me
sujets
préoccupent.
Des sujets sociétaux ?
Sociétaux, des sujets sociétaux, ça peut être des réflexions, de l'ordre de la réflexion, ça peut être des choses qui sont ressenties, ça peut être des rencontres, ça peut être... Il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup
de paramètres
qui rentrent en ligne de compte. Et tous ces paramètres-là, après, ils sont... je les synthétise, on va dire, à l'intérieur de moi, et ressort ce qui ressort. Et j'essaie de le ressortir au mieux. Mais il faut quand même dire que quand on commence un tableau, même si on sait un petit peu, je dis bien un petit peu...
Ou la direction.
Vers quoi on voudrait aller. Souvent, on change de chemin en cours de route.
Oui.
Et parce qu'on ne sait pas trop où on va, jusqu'à ce qu'on ait terminé, on ne sait pas trop où on va, on ne sait même pas du tout où on va au bout d'un moment. Puis on ne se rend pas tellement compte au fur et à mesure. Quand on peint, on ne se rend pas tellement compte de ce qu'on fait. On n'est pas très conscient, en fait, de ce que l'on fait. C'est peut-être l'inconscient qui parle.
Oui, je ne sais pas. Il y a des
chances. Sûrement. Mais il n'y a pas cette chose-là qui est réfléchie.
Oui, je comprends.
Ce qui est réfléchi, c'est avant. Voilà. Avant de commencer. Après, plus du tout. Après, plus du tout, on lâche vraiment les choses et les choses viennent comme elles viennent.
Après, c'est un vagabondage.
Après, c'est une. Oh, c'est plus que ça, c'est une errance. C'est plus qu'un vagabondage. C'est une errance, ce sont des appels, ce sont des lignes qui appellent des couleurs, qui appellent d'autres lignes, qui appellent des épaisseurs ou des. Voilà. des choses qui ne sont... Parce que je travaille énormément,
oui,
la
matière,
je travaille énormément
oui,
la matière dans mes tableaux. Oui. Donc ça peut être de la matière en surface, mais ça peut être aussi en creux.
Oui.
Donc je suis très attaché à la matière. Ouais.
Donc vous avez un instrument pour pouvoir
parvenir
à vos faits.
J'ai beaucoup d'instruments. Bon, j'ai des pinceaux, des couteaux, comme tout le monde. Mais après, j'utilise beaucoup les doigts. Et puis après, j'utilise des instruments que j'invente. Hein. C'est-à-dire, ça peut être un bout de bois, ça peut être, ça peut être tout ce qui me tombe sur la main et qui peut me servir, qui peut être utile.
Qui peut faire évoluer la peinture.
Voilà, faire évoluer, puis qui peut lui aller dans ce que je suis en train de ressentir au moment, à ce moment-là, quoi, au moment précis, à ce moment précis. Mais ce n'est pas quelque chose de réfléchi du tout. C'est quelque chose de très spontané. Et c'est fantastique.
C'est un peu comme dans le rêve, quand tout à l'heure vous parliez d'inconscient.
Oui. C'est-à-dire que on ne maîtrise rien et on ne cherche surtout pas à maîtriser, de toute façon. On a un fil rouge, mais ce fil rouge, comme je vous le disais, on le perd souvent de vue. On l'a au départ.
Oui, parce qu'il faut bien.
Mais ce fil rouge, il se déroule, et quand on arrive à la fin de la toile, en fait, on se rend compte qu'on a divergé 5, 10, 20 fois. Quoi.
D'accord.
Donc, c'est très riche. C'est ça qui est très riche et très intéressant et très prenant. Voilà.
Oui, j'imagine.
Oui.
Donc là, vous avez combien de tableaux pour cette exposition intitulée Fragilité ?
Alors, je ne les ai pas comptés, mais...
Enfin, ceux qui, pour l'instant, sont sur le 6 mètres.
Il y en a une quinzaine. Il y en a une quinzaine de...
Excusez-moi.
Non, je vous en prie. Une quinzaine de toiles, à peu près.
Assez grande.
Il y a quelques petits formats.
Oui.
4 ou 5 petits formats. Et après, ce sont, moi, ce que j'appelle les moyens formats.
Oui.
Voilà.
Tout est relatif.
Tout est relatif. Et pour moi, ce sont des moyens formats. Parce que j'aime énormément travailler sur des très grands formats. Je sais pas, 1m50, 1m80, 2m. J'aime beaucoup.
Oui, effectivement.
J'aime beaucoup. Mais c'est un travail maintenant que je ne fais plus que sur commande. Parce que ça demande de la place.
Et
ça, il faut pouvoir stocker les œuvres. Donc je ne les fais plus que sur commande, ces œuvres-là. Donc je reste sur des toiles de 1m20, 1m30, 1m. Qui sont vraiment des formats que je qualifie de moyens.
Voilà. Donc dans ces tableaux, parce que j'ai fait un petit peu le tour ce matin, il y a ce que vous appelez des empreintes, vous pouvez le, entre autres, parce que moi ça m'a sauté aux yeux.
Alors, ce sont les empreintes de choses, de mots, que j'ai écrits.
Vous revenez toujours à l'écriture.
Ah, je reviens.
Ah oui, ça le...
De toute façon, je reviens toujours à l'écriture.
D'accord.
C'est quelque chose qui est...
C'est dans votre ADN.
Que j'ai dans mon ADN. J'écris énormément tous les jours. Dès qu'une idée me vient, dès qu'une réflexion me vient, quelque chose m'interroge, je le pose, je l'écris.
Vous avez des petits carnets ?
J'ai un petit carnet que je fais suivre partout.
Avec un stylo, donc
Oui. Et même à un moment donné, j'avais un dictaphone, parce que quand j'étais en voiture, comme je ne pouvais pas écrire, je m'enregistrais.
D'accord.
Pour ne pas oublier, pas oublier l'idée ou la réflexion.
La petite sentence.
Voilà. Donc j'ai toujours ça. Et donc ces empreintes, ce sont vraiment des choses que j'ai...
Écrite,
des réflexions, je ne sais pas, et que j'ai imprimé sur, je crois, un ou peut-être deux tableaux, pas sur tous, bien sûr, parce que j'aime pas tellement l'écriture sur les toiles, de manière générale, mais là, c'est la nécessité a fait loi, donc j'ai pas pu contourner.
C'était pour compléter, pour avancer
vraiment,
dans votre idée.
C'est vraiment pour compléter, puis pouvoir avancer. D'accord. Avancer sur la toile. Voilà.
Donc parmi ces grands formats, il y a aussi des lignes qui se dessinent. Enfin, on peut deviner des choses. Après, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir.
Chacun y voit ce qu'il...
Parce que ça peut être du domaine animalier, si je puis dire. Ça peut être humain, ça peut être de la végétation. Enfin, c'est très libre comme interprétation, me semble-t-il.
Oui. Alors, c'est très libre de ma part, mais c'est une manière aussi de laisser libre... ceux qui regardent, c'est-à-dire que les gens par le regard, en tout cas, les gens s'approprient le tableau, l'apprivoise, uh-huh. en quelque sorte, et imagine ou voit ce que eux ils y voient. Si vous prenez un groupe de personnes, aucune d'elles ne verra la même chose, ne fera ouais. attention à la même chose, ne percevra pas la même chose. Uh-huh. Et ça, je trouve que c'est très très important, c'est de laisser les gens qui regardent apprivoiser et s'approprier le tableau.
Oui.
Voilà. Et
c'est une histoire qui voilà. se raconte.
C'est
part.
Une histoire que eux peuvent se raconter.
Oui. Et ce qui est vous en avez raconté
une. Moi, j'en ai raconté une. Ouais. Je raconte une. C'est la mienne.
Oui.
Mais il est très important pour que les gens qui regardent puissent se raconter la leur.
Oui.
Et donc, les tableaux sont une espèce de miroir, en fait. Il y a une espèce d'effet miroir dans un tableau. Hein. Oui, c'est ça. C'est l'effet miroir.
Et donc, vous l'avez intitulé « Fragilité oui. ». C'est un très beau mot, je trouve.
Oui.
Donc, vous pouvez nous dire
oui,
ce choix-là.
Alors, j'ai intitulé « Fragilité » parce que, d'abord, je trouve que nous sommes des êtres sensibles, je dirais,
ouais.
Et donc fragiles par nature. Et souvent, on subit, je vais dire, des injonctions.
Ouais.
On nous dit de ne pas dire, de ne pas montrer, de ne
voilà,
pas faire.
Fais ci, fais ça,
voilà,
pas ça.
Mais... on subit beaucoup d'injonctions. Et je trouve qu'au contraire, la richesse de chacun de nous, d'ailleurs, hein, c'est justement cette somme de fragilité.
Ouais.
Prises en nombre et prises dans leur particularité.
Mmh.
Donc donc j'ai voulu mettre dans cette exposition, j'ai voulu mettre en exergue, en tout cas les miennes, fragilité,
mmh. oui, oui.
En espérant que ça parle à d'autres personnes.
Mmh.
Mais c'est pas le mot n'est pas choisi au hasard.
Je me doute, oui.
Pas du tout.
Oui, oui.
Parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille. Enfin, la fragilité est un état, une réalité,
mmh.
sur laquelle je travaille énormément.
Mmh.
Sur laquelle je réfléchis énormément et qui me fait me poser énormément
des questions.
Mmh. Oui. Oui.
D'accord.
Oui.
Okay.
Sur le plan humain.
Et l'affiche que vous avez choisie pour mmh. illustrer cette exposition mmh. est très belle.
Merci.
Vous pouvez la. Enfin, les gens qui viendront verront, mais en deux mots, là. Enfin, je sais pas, là.
Oh, mais c'est une affiche que j'ai faite en collaboration avec un ami qui est graphiste.
D'accord.
Et qui me connaît très 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 bien.
Qui connaît votre univers.
Voilà, qui connaît parfaitement bien mon univers, qui connaît ma façon de penser,
uh-huh.
et de peindre aussi. Parce qu'on a souvent peint ensemble aussi, parce que c'est un artiste également.
C'est qui ? Pardon ?
Jean-Marie Hervé.
C'est celui qui avait exposé...
oui, il avait exposé...
Archipel. Avec Jeanne.
Avec Jeanne Lungtak.
Et vous les aviez accompagnés ici.
Voilà, et je les avais accompagnés une fois.
D'accord.
Et c'est lui qui m'a fait cette affiche et à qui j'ai donné carte blanche. Je lui ai dit, tu me connais.
Et qui travaille beaucoup l'encre, lui,
oui,
en l'occurrence.
Oui, et qui lui travaille beaucoup l'encre.
Ouais.
Et je m'en suis complètement remis à lui.
Mm-hmm.
Et en fait, il a tapé juste.
D'accord.
Voilà. Donc c'est super, c'est génial.
Mmh.
Voilà, c'est une belle complémentarité.
Uh-huh. Je vous propose de faire une seconde pause musicale, et non sur notre petit papier. Ça correspond au numéro 5, et c'est Pink Floyd, là, nous changeons d'ambiance.
De registre.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Breaking the wall.
qui est autour, non.
D'accord. Donc, nous allons reprendre nos conversations. Donc, il y a cette exposition, mais vous avez écrit aussi un livre dont je disais « Le cri du hibou au milieu du désert, mémoire d'un confiné ». Donc, vous l'avez écrit durant le confinement.
Absolument.
Ce satané confinement.
Absolument.
Qui nous obligeait à rester chez nous,
oui,
cloîtrés.
Nous étions incarcérés.
Et là, nous avions des choses aussi, fais pas ci, fais pas ça. C'était
absolument.
Le cas de
dire. Là, on était servis en injonction. Hein.
C'était pas mal. Donc, l'autre fois, quand je vous avais au téléphone, mm-hmm. vous m'aviez dit que durant pendant le confinement, donc, vous n'arriviez plus à peindre.
Oui.
Donc, vous êtes revenu en fait à vos premières amours, l'écriture.
Oui. Enfin, oui.
Premières amours qui ne vous ont jamais quitté.
Qui ne m'ont jamais quitté, c'est-à-dire que n'arrivant pas à peindre en l'espace de 2-3 jours.
C'était le fait d'être confiné qui vous.
Sûrement. Et je n'arrivais plus à.
À créer.
À peindre, je n'arrivais plus à créer, je n'arrivais plus à. J'avais perdu mes marques quelque part. Et bon, j'ai attendu 2-3 jours, et puis voyant que rien ne revenait.
Donc vous êtes dit, il faut passer
à
autre chose.
Je me suis dit, bon, faut passer à autre chose, on va pas. Voilà,
on va pas rester.
On va pas se focaliser là-dessus.
Déjà que nous ne pouvions pas faire grand-chose.
Voilà.
Si ce n'est écouter de la musique ou.
Voilà, donc je me suis spontanément mis à écrire, bon, à beaucoup écrire.
Mais sans. À écrire spécifiquement, quoi, c'était pas, vous avez pas récupéré vos notes.
Non, je me suis mis à écrire, je suis parti d'une réflexion du jour, j'ai digressé complètement, et je suis parti, je me suis rendu compte au bout de quelques jours, que j'étais parti sur une histoire,
d'accord.
En fait.
Ah oui, que je commençais
à raconter une histoire.
D'accord.
Et ça a été très, très intéressant et très drôle, parce que je me suis dit, je vais écrire jusqu'à la fin de ce confinement.
Alors, oula, oui.
Jusqu'à la fin du confinement, c'est-à-dire qu'au début, on ne connaissait pas encore trop les dates.
Au départ, oui, c'était bien. Nous en avons eu 3 quand même.
Oui. Alors là, c'est le premier.
Oui, hein, j'ai bien compris.
Qui a été le plus long,
oui.
Et le plus difficile à mon goût. Hein.
Ah oui, parce qu'en plus, il y avait les sorties, il y avait papier, montrer pâte blanche, tutti quanti.
Et donc, je me suis mis à écrire, puis ça a commencé à raconter une histoire, ça ressemblait à quelque chose, on va dire, en tant qu'histoire. On va dire. Et là, j'ai pas mal travaillé, je me suis focalisé sur l'écriture de cette nouvelle, et que j'ai stoppé dès que le confinement s'est arrêté, c'est-à-dire le 11 mai.
Vous aviez fini ou
C'est-à-dire que quand on a annoncé qu'on serait déconfiné...
Les portes allaient s'ouvrir.
Le 11 mai, là j'ai commencé à décroître dans mon histoire. Parce
d'accord.
qu'il a fallu que...
Lui trouver une fac déjà.
Ouais, il fallait que je trouve une chute. Donc j'ai commencé à décroître, enfin, pas en intensité, mais que je commence à aller vers la fin. Quoi.
Uh-huh.
Donc voilà. Mais je pense que le confinement a duré 3-4 mois de plus. J'étais parti sur le roman. J'étais parti pour écrire un roman.
D'accord, oui. Oui, vous pouviez
j'étais parti
nourrir...
Pour. J'étais parti pour.
Oui, oui.
Et puis bon, ça s'est arrêté, donc...
Donc c'est une nouvelle.
Donc je me suis arrêté, donc c'est une nouvelle qui fait 80, à peu près, hein, 80-85 pages. Donc,
qui sera édité, vous pouvez dire, c'est
un peu spécial. C'est-à-dire qu'elle est éditée chez un
éditeur littéraire,
qui s'appelle Librinova.
Ouais.
Et qui s'occupe de la diffusion des écrits, romans, nouvelles, etc., auprès de environ 200 libraires en France, 200-250 libraires en France, et qui envoie les manuscrits à des maisons d'édition, à de grandes maisons d'édition. Alors moi, je viens de, le bouquin vient juste d'être publié, donc c'est très récent, c'est très jeune.
Oui, oui.
Donc, mais je commence à avoir pas mal de commandes qui sont faites.
D'accord.
Via le lien que...
Via
Librinova.
Librinova, c'est ça.
Librinova.
Ouais.
Il suffit de cliquer sur Librinova et de chercher le cri du hibou au milieu du désert. OJ Vincent, et vous tombez sur le bouquin, on peut le commander.
Voilà. Parce que pour l'instant, vous ne l'avez pas.
Ah, pour l'instant, je ne l'ai pas.
Et le but du jeu était que quand même, vous puissiez normalement le présenter lors de l'exposition.
Voilà, alors je compte toujours d'ailleurs, le présenter lors de l'exposition, du vernissage de l'exposition le 8 décembre, si je l'ai en main. Si je ne l'ai pas, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais j'en parlerai quand même.
Oui, et puis vous pouvez présenter comme ce que vous m'avez...
Je peux le présenter aussi. Mais bon, c'est quand même moins...
C'est mieux, oui.
C'est moins bien.
Oui.
Mais, ouais, ouais.
Et est-ce que par rapport au livre, tout ça, quant à la mise en page, au choix du papier et tout ça, c'est vous qui avez l'entière responsabilité ou comment cela se passe-t-il?
Non, alors c'est eux qui se sont chargés de toute la mise en page, c'est eux qui se sont chargés de la qualité même du papier, qui n'a rien à voir avec celui que
oui, je me doute.
Que vous avez. Et c'est eux qui ont vraiment choisi la texture du papier, de la couverture. La seule chose que j'ai choisie, moi, pour le livre,
c'est
l'illustration qui est en première de couverture et qui est un de mes tableaux, d'ailleurs.
T'en faire.
Voilà, donc c'est une belle aventure, c'est une jolie aventure.
D'accord.
Et voilà, parce qui... Mais enfin, depuis, je suis revenu à la peinture. Hein.
Oui, oui.
Mais ça a été une expérience très, très... Enfin, c'est une expérience très intéressante, très riche. Et je suis très content.
Parce qu'au départ, le narrateur dit « je » tout le temps.
Tout le temps.
Ben, vous m'expliquerez ce soir après. Et ensuite, donc, au départ, ça... C'est sûr, ça part doucement, si je pourrais dire, sur le fait de tourner en rond, puisque bon, personne ne peut sortir, donc il y a ça, le quotidien, Après, bon, se greffe une histoire d'amour finissante. Après, il y a aussi l'amitié qui est en jeu. Oui. Et puis, ça, la fin, si je puis dire, sans tout dévoiler, c'est vraiment toute une série de réflexions, de questionnements sur cet état, ce fichu confinement, avec tout ce que ça supposait, à quoi ça renvoyait, qu'est-ce que ça voulait dire aussi en matière de vivre ensemble, quelles conséquences ça allait avoir, et que ça encore, et que c'est pas prêt de nous laisser cette affaire-là. Parce que vraiment, il y a eu un avant et un après-Covid, niveau relations humaines, vraiment.
Absolument. Absolument.
Et donc il y a toute cette réflexion, il y a aussi des réflexions sur la condition aussi de l'artiste, des aides aussi, des fameuses aides, en sachant que certaines personnes, à certains on leur a donné de l'argent, d'autres on leur a prêté, enfin bon, et puis à d'autres, on les a laissé se débrouiller en gros.
On les a un peu laissé
en gros et en détail.
Un petit peu. Alors c'est... Moi, je suis parti d'un personnage et de la vie de ce personnage pendant le confinement. C'est-à-dire que la vie sociale s'arrête complètement, mais la vie personnelle, intime, continue.
Oui, tant bien que mal.
La vie continue, tant bien que mal. Donc,
avec beaucoup de dégâts collatéraux,
beaucoup de dégâts collatéraux, absolument.
Ça, c'est...
Mais, la vie continue et...
Et il y a la vie à l'extérieur aussi.
Et rien ne l'arrête, rien ne l'arrête. Donc... On est dans un espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'on est,
on est
coincé dans ce paradoxe, c'est-à-dire que la vie continue, à titre individuel, la vie continue, il nous arrive ce qui nous arrive, mais, on vit ce que l'on vit, mais dans un contexte où tout est bloqué, tout est arrêté. Et on doit supporter, en fait c'est un peu une double sanction.
L'impossibilité d'aller voir ses amis, de sortir chez ses proches.
On est face à tout un tas d'impossibilités, d'incapacités, et en même temps on est obligé
de composer avec,
faire avec, parce que la vie continue.
Oui, on peut en aller pas. Oui.
Voilà, donc j'ai bien aimé mettre en relation... ce regard social, sociétal, et en même temps ce regard très intime, très très intime, c'est-à-dire c'est un double regard.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est j'y réfléchissais ces jours-ci en écoutant une information, c'était par rapport à la guerre Ukraine et un soldat ukrainien, et ça m'a beaucoup marqué. C'était un soldat ukrainien, donc qui est homosexuel, donc qui vit avec quelqu'un depuis 12 ans, mais... S'il lui arrivait, s'il restait sur le champ de bataille, son compagnon n'aurait pas le droit d'aller l'OTAN. Donc, il a demandé à une amie qu'il a depuis très longtemps de contracter un mariage, alors via, de façon, par papier, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, au cas où il lui arriverait quelque chose, puisque seuls les parents ou l'épouse, ou voilà. Et donc, je me suis dit, c'est l'intime, et là, pour l'histoire du confinement, c'est la même chose. La mainmise du pouvoir, d'une certaine manière, enfin, sur notre intimité,
sur l'intimité,
sur ce que nous avons de plus cher et qui ne regardent que nous, après tout.
Absolument.
C'est pas, peu importe comment on vit.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est la même mise de ce qui se passe, de l'État, de... Je sais pas comment on peut appeler ça.
De l'administration.
Même mise de l'administration.
De décision sur notre...
Sur nos vies individuelles, voire intimes.
Oui, c'est ça.
Très intime même. C'est-à-dire que ça s'immisce là, dans nos vies, mais pas que. Dans nos pensées, dans nos sentiments.
Dans nos chairs. On ne pouvait pas avoir plus le droit de toucher personne.
Voilà, c'est ça. Dans nos affections.
Plus de bise.
Donc on a été très très impacté. Enfin, en tout cas, moi, j'étais comme beaucoup. Très impacté. Et je pose également la question qui est en filigrane. La question du positionnement des artistes dans ce contexte-là.
Quelle place ont-ils? Comment peuvent-ils continuer à être artistes?
Comment peuvent-ils continuer à œuvrer? Et en même temps, s'ils le font, comment peuvent-ils le faire? Comment doivent-ils le faire?
Quel chemin doivent-ils emprunter pour
absolument. Ouais. Donc ça pose pas mal de questions. Alors, bien sûr, c'est pas... j'ai pas approfondi forcément cette réflexion-là, mais la question est posée, la question est ouverte. Et ça, ça a été très très intéressant d'avoir ces regards multiples sur un instant T qui a duré un certain temps quand même. Mais ça a été très intéressant. L'intime, le sociétal, le social, les injonctions administratives. Tout ça se mêlant, et comment fait-on pour se sortir de tout ça? Comment vit-on avec
voilà,
tout ça?
Voilà, oui. Puisque vivre, quand même, nous vivions.
Voilà, voilà. Nous étions vivants, mais voilà.
À quelles conditions et sous quelles...
Voilà, c'est ça. Donc ça a été un petit peu compliqué.
Et comment de cette contrainte arriver justement à vivre et à rester soi? C'est surtout ça le plus important. Parce que vivre, bon, il suffit, au sens premier, il suffit de boire et manger, dormir et de se laver, et ok. Mais c'est pas ça le plus important.
Non, malheureusement, non, c'est pas le plus important.
Heureusement d'ailleurs.
Le plus important, c'est quand même les interactions.
Le rapport à l'autre.
Le rapport à l'autre, les interactions humaines, ce sont les ressentis, ce sont les échanges. C'est ça le plus important. Ouais. Et ça, on a été privé de ça. Et on était livré en quelque sorte à nous-mêmes, c'est-à-dire on a été...
Abandonné.
Il y a une forme d'abandon, quelque part. Il y a eu une forme d'abandon. Et ça m'a beaucoup questionné, ça m'a beaucoup touché. J'ai été très touché. Et c'est pour ça que tout d'un coup, je ne suis plus arrivé à peindre, peut-être. Et que j'ai eu besoin de dire.
Plutôt
que de le montrer ou de l'exprimer par la peinture, j'ai ressenti ce besoin de le dire, de l'écrire, pour que ce soit gravé quelque part, gravé pour moi déjà.
Oui, c'est important.
Gravé déjà pour moi.
Ah oui,
et
c'est
après,
important.
Si je peux partager cet instant-là,
ce questionnement,
avec d'autres, c'est super intéressant, quoi. Voilà.
Oui, parce que justement, vous disiez que vous ne pouviez plus peindre, c'était parce que justement, vous n'aviez pas... Les repères aussi avaient volé un éclat, d'une certaine manière, dont ce que vous aviez, alors j'aime pas le terme habitude, mais enfin comme, je sais pas, ou peut-être comme rite, se sentait, avait été ébranlé, dont vous ne pouviez plus, sur la toile, dessiner ou peindre quelque chose. Et heureusement que vous avez eu encore ce ressort de pouvoir écrire.
Oui, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain dans une privation de liberté quasi totale, même si c'était... Voilà, on n'était pas non plus ni torturé, ni malmené, ou trop, on n'était pas trop malmené.
Oui, notre porte n'était pas fermée à clé.
Voilà, mais on n'était pas... Voilà. Mais, n'empêche que on était quand même très, très amoindri. Très amoindri.
Puis il n'y avait plus ces relations humaines.
C'est ça. Voilà. Et j'ai tenu absolument... Alors, je n'arrivais plus à peindre, mais plus du tout. C'est-à-dire que j'avais l'impression, j'ai essayé deux, trois fois, quatre fois... De me remettre à peindre, de me mettre à peindre. Et j'avais la sensation, le sentiment de ne plus savoir. C'est-à-dire que j'étais complètement perdu. Alors, je n'ai pas insisté, parce que on m'a toujours... Enfin, quelqu'un un jour m'a dit que quand ça ne vient pas, il ne faut pas insister.
Il faut, oui, au mieux pas.
Donc, je n'ai pas insisté. Au lieu d'insister, je suis vraiment passé sur un autre...
Un autre moyen d'expression.
Un autre moyen d'expression et une autre forme de création. quelque part.
Ah oui, l'écriture, c'est... Et vous écrivez manuellement ou...
Oui, au stylo, à la main. D'accord. Ouais, j'écris pas directement à l'ordinateur, si j'en suis tout à fait incapable. J'ai l'impression de... Quand j'écris à l'ordinateur, j'ai l'impression de ne pas...
Contrepasser raccourci.
Non, mais j'ai l'impression que ça ne vient pas de moi.
Oui,
ben... J'ai l'impression que que c'est dématérialisé, que c'est décharné. C'est pas incarné. En fait, voilà. Alors que quand j'écris avec un stylo, c'est incarné. C'est vraiment incarné. Ouais. Et puis les mots me viennent...
Plus facilement,
me viennent mieux...
Et c'est pas la même démarche, voilà. Et puis c'est toujours la main qui a le pinceau, mais la main écrit.
Oui.
Et puis au niveau de, entre ce qui une pensée et puis ce qui est écrit, enfin il toute cette alchimie, ce n'est pas la même sur un clavier d'ordinateur.
Pas du tout. Et je trouve que l'écriture par rapport à la peinture c'est assez fabuleux parce que ce sont deux manières qui peuvent sembler un petit peu opposées pour exprimer les choses,
mais
qui en fait qui ne le sont pas et qui pour moi sont
extrêmement complémentaires. C'est une autre manière
d'aborder, sont extrêmement complémentaires. Donc ça m'enrichit en fait énormément.
Et il y a aussi, puisque vous dites que vous avez écrit à la main, il y a le fait que pendant cette période, les écrans ont été sollicités et puis que c'était aussi la seule fenêtre sur l'extérieur puisqu'il y avait des artistes qui donnaient des mini-concerts comme ça qu'ils postaient et c'est vrai que ça faisait du bien. Moi, je me souviens de Thomas Joly qui est un metteur en scène, vraiment un petit génie, qui avait joué sur... qui jouait dans la scène du balcon de Roméo et Juliette et il l'avait fait du balcon de sa maison pour que justement je trouvais ça. Et puis bon, il y a des peintres aussi qui ont envoyé des toiles, des musiciens. Je sais que comment il s'appelle, Yves Rachtener, le directeur du Festival des Orgues, il avait comme ça aussi photographié l'orgue et puis jouait pour qu'il y ait ce lien. Et oui, donc je voulais en venir. Donc, puisqu'il y avait les écrans qui étaient tout se passait par écran, justement, le fait de pouvoir garder quelque chose de plus, de plus manuel, de plus charnel, de plus sensuel, c'est important aussi pour rester soi.
Pour rester soi. Ça a été ma manière à moi
de tenir debout,
de survivre,
de
tenir debout. Et oui, je dirais pas de résister, mais de
c'est un peu ça aussi.
De tenir debout, de rester debout.
Ne pas se laisser trop happer par
me laisser happer par les contingences.
Par l'anxiété climat anxiogène.
C'était très anxiogène. Donc ça m'a permis, en fait, ça m'a permis de traverser ce moment-là.
Ce désert.
Avec une certaine, je ne dirais pas une certaine sérénité, c'est un peu poussé, mais
un certain confort.
Un certain confort, oui. Voilà, parce que j'ai pu me pencher sur un autre mode d'expression, et je m'y suis beaucoup investi. C'est un texte qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
C'est autre chose.
Mais qui a été très travaillé, que j'ai beaucoup travaillé.
Le travail d'écrivain, la tâche.
L'écriture, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très important pour moi, l'écriture. Et j'ai écrit plusieurs autres ouvrages avant. Et ça... Ouais, j'ai écrit beaucoup de poésie, j'ai écrit du théâtre.
Qui a été publié ?
Alors le théâtre n'a pas été publié, en revanche il a été joué.
Il a été
mis en scène et joué, c'était en 2000, il y a quelques années maintenant, c'était en 2009 ou 2010, je ne sais plus. Et par un comédien parisien qui était tombé sous le charme, parce qu'au départ c'était une nouvelle.
D'accord.
Et quand il a lu la nouvelle, il m'a dit, si tu arrives
à le mettre en version théâtrale.
À travailler le texte pour que ça puisse être dit, je prends.
D'accord.
Donc j'ai travaillé beaucoup pendant 6-7 mois dessus, et puis finalement on a pu le jouer, enfin il a pu le jouer.
D'accord.
Et ça a été une expérience.